Ce troisième samedi du mois, c'est l'heure d'Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la Métropole. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avec aujourd'hui Anaëlle, de l'Académie du journalisme et en sociaux, René La Science, bien sûr, Ludovic au look gramscien et Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui, et je le dis gravement, du marché du travail. Le marché, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Un marché du travail que depuis 20 ans, on va voir pourquoi 20 ans, les gouvernements successifs essaient d'amener à l'équilibre avec le succès que l'on sait. Heureusement, maintenant et depuis peu, le 16 septembre 2021, on sait que c'est facile de trouver du travail. Et d'ailleurs, c'est bien ce que nous allons voir avec notre invité, un invité de marque, puisqu'il s'agit de Laurent Cordonnier, qui est déjà venu à notre émission et qui a fait la première émission d'Angle d'Attaque, donc, dont on le remerciera jamais assez. Il était maître de conf à l'époque et il est professeur maintenant. Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour.
Laurent, tu es aussi membre des économistes atterrés avec Jatteau et Fretel, de la même faculté de sciences économiques, je crois savoir. Et récemment, tu étais chez les Amis du Monde Diplo pour parler de ta contribution à ce gros volume-là que j'ai sous les yeux, de 1044 pages, avec 35 intervenants pour 90 contributions, avec des Lordon, des Ruffin, des Jean-Marc Porquet, des Sarah Lubray, bien du beau monde. Je vous conseille vivement la lecture de ce lourd tribut à l'économie libérale. Ça s'appelle Le Nouveau Monde. Et la contribution de Laurent porte sur le coût du travail. On va bien entendu y revenir. Je n'oublie pas l'autre ouvrage qui nous a motivés pour t'inviter, hormis l'amitié que tu nous fais, Laurent. Pas de pitié pour les gueux, nouvelle édition, revue et augmentée, et on va voir comment, paru également en 2021. Mais pour le moment, commençons par des choses simples, n'est-ce pas, Ludovic ?
Oui, alors effectivement, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Donc sur quoi se fonde le président pour être aussi affirmatif, Laurent Cordonnier ? Parce qu'il l'est, assurément, et je pense que d'ailleurs il ne mettra pas en désaveu cette phrase. Je pense que s'il est réélu, je pense qu'il pourrait tout à fait reprononcer cette phrase sans aucune ambiguïté.
Oui, alors il vaut peut-être d'abord merci de votre invitation et merci de ce rappel chaleureux. Je ne me souvenais plus avoir participé à la première de l'émission Angle d'Attaque. Oui, il vaut peut-être la peine de rappeler ce qu'a été le propos exact du président de la République ce jour-là, dans une interaction ou un échange dans la rue, d'ailleurs, avec un demandeur d'emploi qui, lui, était plutôt spécialisé dans les métiers de l'horticulture.
Absolument.
Oui. C'était le 15 septembre 2018 et ses propos exacts sont les suivants. Donc il explique à cette personne qui cherche du travail dans l'horticulture mais qui n'en trouve pas, il lui dit, le président, il y a des tas de métiers, il faut y aller. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue et je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler avec les contraintes du métier. Vous faites une rue, vous allez à Montparnasse par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants, franchement, vous pouvez être sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment.
Voilà, un horticulteur, ça. Non.
Alors, oui, non voilà, après, le président explique de manière pédagogique qu'il y a des formations et qu'on peut se requalifier et que ceci ne constitue pas un véritable problème. Donc, en effet, c'est l'état actuel, finalement, de la doctrine dans les milieux dirigeants, mais aussi, malheureusement, dans l'académie, puisque ces dirigeants n'ont pas inventé cette chose-là eux-mêmes. Macron disait à ce moment-là, mais finalement, les incitations à trouver du travail sont aujourd'hui suffisamment puissantes pour qu'il n'y ait pas de raison que les gens ne soient pas incités à travailler. Et si, en plus, ils font l'effort de traverser la rue, ils vont tout de suite trouver un emploi. Alors, qu'est-ce qui fonde cette maxime aujourd'hui qu'on peut qualifier de maxime tout droit sortie du workfare, c'est précisément cette doctrine qui s'est progressivement répandue depuis une trentaine d'années dans le sillage de l'ensemble des politiques de l'emploi qu'on a qualifié de politique structurelle de l'emploi. Et il faut bien comprendre que ceci est adossé à un consensus, disons, de la doctrine économique, hein, un consensus en macroéconomie et en économie du travail, consensus qui lui-même date d'une trentaine d'années, que suivant lequel le chômage, en tous les cas le chômage persistant, le chômage durable, persistant à un niveau élevé dans les pays européens et un grand nombre de pays de l'OCDE, s'explique non pas pour des raisons d'insuffisance de la demande adressée dans l'économie, mais s'explique essentiellement par les dysfonctionnements du marché du travail que nos lois sociales, l'état social en général, les institutions que nous avons construites pour protéger le salariat, toutes ces structures ont fini par éloigner le marché du travail de son fonctionnement concurrentiel idéal, avec ce sous-entendu qui n'en est pas un, parce que c'est au cœur de la doctrine. Si le marché du travail était parfaitement concurrentiel, nous aurions donc un fonctionnement parfait des lois de l'offre et de la demande, le salaire réel s'ajusterait aux quantités offertes et demandées, et normalement, sur un marché concurrentiel, il ne doit subsister aucun chômeur à l'équilibre. Donc, c'est pas compliqué, si vous avez des chômeurs, c'est que ce marché est empêché de produire sa grande œuvre, et ce qui l'empêche de produire sa grande œuvre, ben, ce sont toutes les institutions qui l'empêchent de fonctionner, toutes les institutions, les lois fiscales, les lois sociales, les revenus de remplacement, les allocations chômage, les syndicats, qui empêchent et qui éloignent le fonctionnement de ce marché de la concurrence. Et donc,
oui. Simplement, toutefois, les libéraux admettent l'existence d'un chômage naturel, comme ils disent.
Chômage naturel, c'est pas si employé que ça, hein, par la doctrine. Ils admettent qu'il y a un chômage frictionnel, qui est dû aux petites difficultés d'appariement au jour le jour entre les compétences et l'emploi. Mais en théorie, ce chômage frictionnel ne doit vraiment être que frictionnel, c'est-à-dire réduit au minimum. Et quand on parle de taux de chômage naturel, en fait, on vise plutôt justement l'idée que non, ce sont bien des structures sociales qui ont été bâties au fur et à mesure, en particulier pendant la période des Trente Glorieuses, ou la période d'après-guerre, comme le qualifient les anglo-saxons, et que ce sont ces structures qui empêchent le salaire réel, finalement, de s'ajuster correctement à l'offre et la demande. Et dans sous ce chapeau général de chômage structurel, en fait, ils identifient principalement trois grandes causes. Hein, en effet, des institutions perturbatrices, comme les syndicats, par exemple, qui ont pour but de coaliser les travailleurs et donc à s'opposer finalement au fonctionnement régulier d'un marché. Donc des institutions perturbatrices, parmi lesquelles il y a aussi toutes les lois sociales qui prévoient des revenus de remplacement quand les travailleurs sont privés d'emploi ou même inactifs.
Donc les cotisations sociales qui lui permettent de fonctionner.
Tout à fait.
En dehors du travail.
Voilà, et qui permettent d'indemniser le chômage, n'est-ce pas ? Ou alors des minima sociaux qui sont versés pour des gens qui auraient perdu leur droit au chômage. Et donc ça, c'est le premier pilier, ces revenus de remplacement qui sont supposés décourager les gens, finalement, d'accepter un travail aux conditions du marché, ou qui leur créer un matelas de sécurité, disons, trop confortable et qui les rend trop exigeants sur leurs conditions salariales pour trouver un emploi, si bien que il y a une forme de coquetterie généralisée dans le salariat pour ne pas accepter les conditions du marché. Donc ça, on appelle ça le workfare. Et donc ça débouche sur toutes les politiques qui, depuis 30 ans, visent à, comme il est dit, encourager le travail plutôt que développer l'assistance. Il y a deux autres piliers forts dans cette théorie du chômage structurel. Il y a aussi l'idée que il y a un trop grand nombre de lois protectrices de l'emploi, c'est comme ça que les appelle l'OCDE, des lois protectrices de l'emploi qui régissent l'embauche et le licenciement de la main-d'œuvre, qui régissent les CDI, les licenciements individuels, les licenciements collectifs, les CDD, et que ces lois protectrices de l'emploi sont un carcan pour faire jouer la concurrence correctement sur le marché du travail. Et puis, troisième cause de ce chômage structurel, le coût trop élevé du travail en général. Et ce coût trop élevé du travail, il viendrait essentiellement des cotisations sociales, hein, qui grèvent les salaires, majorent les salaires, et qui opèrent un surcoût pour les entreprises. Voilà les trois piliers. Et parmi ces trois piliers, celui auquel s'adresse le président ici dans sa grande maxime de 2018, c'est celui du workfare. Le président dit, en substance, parce que c'est pas décodable immédiatement, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Aujourd'hui, en 2018, il n'y a plus aucune raison pour ne pas trouver un emploi si on traverse la rue. Et en particulier, après 20 ans d'efforts pour soutenir les travailleurs par la prime pour l'emploi, le RSA activité, aujourd'hui, le travail paye, comme ils disent. Paye relativement à l'inactivité. Donc 20 ans d'efforts auraient suffi à faire en sorte qu'il n'y a plus de raison de rester dans son transat, hein, d'une certaine manière, et à snober l'emploi du haut de ses allocations chômage ou de son RSA. Voilà un petit peu d'où part cette chose.
Alors, tu as dit une chose, que je reviens simplement là-dessus. Il n'y a pas que la France, il y a l'OCDE qui est le think tank majeur de cette affaire, non ?
Ah, bien sûr. Ce qui a été mis en œuvre en France a été mis en œuvre, en tous les cas s'agissant du workfare, a été mis en œuvre dans la plupart des pays de l'OCDE, parce que c'est en effet sous la houlette de cette organisation internationale, principalement d'ailleurs un think tank, comme tu l'as dit, mais un think tank validé par l'ensemble des gouvernements membres de l'OCDE. C'est sous l'égide de l'OCDE, éclairé par les travaux évidemment de l'Académie et de l'Université, et même d'un certain nombre de prix Nobel d'économie, qui ont mis en place l'ensemble de ces politiques. Et ça avait commencé par les États-Unis et la Grande-Bretagne avant que la France s'y mette réellement.
Oui, et puis depuis 20 ans, puisque donc là, il y a des gouvernements de gauche, on peut dire comme ça, et de droite, de toute façon. C'est pas, on est dans le même esprit, de toute façon.
Oui, aujourd'hui, le dispositif phare du workfare en France, c'est la prime d'activité. Cette prime d'activité qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2016, mais en réalité, cette prime d'activité, elle remplace ce qui était la prime pour l'emploi, elle qui avait été créée dès 1999, et puis ensuite le RSA activité qui avait été créé 10 ans plus tard, en 2009. Donc en fait, on a en effet plus de 20 ans de politique visant à inciter les travailleurs à reprendre un emploi, particulièrement au niveau du SMIC, en améliorant par, on va dire, quelque chose qui ressemble à un impôt négatif, hein, finalement, en améliorant le revenu des gens qui acceptent un travail relativement proche du SMIC et à temps plein. Pour donner une idée, hein, aujourd'hui, la prime pour l'emploi, pour une personne seule, sans enfant, avec un salaire de 1 300 € net par mois, et une aide au logement en conséquence, le montant de la prime d'activité est de 140 € par mois, à peu près. Hein, donc l'idée est bien de majorer d'une certaine façon le SMIC, mais sur la base de recettes fiscales prélevées sur les contribuables, majorer le SMIC pour créer une différence avec les revenus d'inactivité, enfin la situation d'inactivité. Et donc à tel point que l'équivalent du Commissariat Général au Plan, aujourd'hui, dit que pour l'ensemble des ménages français, il est payant de reprendre un travail plutôt que d'être en situation d'inactivité. Donc normalement, le problème est supprimé.
Ça va. On a mis fin à l'assistanat, fait.
Oui, on a mis fin à l'assistanat. C'est génial. Voilà.
Et alors, il y a des gros projets aussi, des grosses, comment dire, structures. La CICE, par exemple. Qu'est-ce que ça amène? Est-ce qu'on est, par rapport aux questions de l'emploi, Donc c'est permettre l'investissement, la compétitivité et l'emploi. Le CICE joue comment aujourd'hui, maintenant qu'il est intégré d'ailleurs dans les charges.
Alors là, c'est le deuxième pilier hein, de ces politiques, de ces nouvelles politiques de l'emploi, partant de l'idée qu'on a affaire à un chômage structurel. Depuis là aussi pratiquement une trentaine d'années, la France, mais comme d'autres pays, est engagée dans une politique très volontariste de baisse des cotisations sociales hein, pour diminuer le coût du travail. Et le CICE, c'était la dernière tranche. La dernière tranche de réforme visant à baisser de manière conséquente le coût du travail, puisque c'était un dispositif qui nous coûte quand même 22 milliards d'euros par an hein, pour diminuer le...
Et depuis...
Alors depuis 2019, il est, comme tu l'as dit, transformé, ce CICE, en baisse pérenne de cotisations sociales. Mais c'est pas seulement le CICE, hein, c'est qu'on peut calculer aujourd'hui que, en gros, depuis que ces réformes de baisse du coût du travail par la diminution des cotisations sociales existent, on en est à peu près à 60 milliards par an de non-perçus de cotisations sociales sur les entreprises. Et le but, c'était bien d'améliorer la compétitivité extérieure de la France hein, pour finalement essayer de régler le problème du déficit du commerce extérieur et capter de la demande depuis l'étranger. Alors là, le bilan est pitoyable hein, sur cette politique. Il faut pas passer par des euphémismes. La plupart des études qui ont suivi les effets de ce CICE montrent qu'il n'y a eu aucun effet sur la compétitivité extérieure. Bon. Et donc maintenant, le consensus, même chez ceux qui étaient les promoteurs de cette politique, le consensus est que ça n'a pas produit cet effet-là. Bon. Quant aux effets sur l'emploi eux-mêmes, ils sont relativement médiocres. Alors là encore, selon les différentes instituts qui ont essayé de mesurer cet effet, on estime qu'il y a entre 100 000 et 240 000 emplois qui ont été créés et préservés durablement par cette politique. Et l'étude qui sort un chiffre médian dit 160 000. Quand on rapporte ça aux 22 milliards annuels mis sur la table pour ce faire, ça met le coût de l'emploi créé par les finances publiques, hein, et donc par l'impôt de la collectivité, ça met le coût de l'emploi créé au-dessus d'un million d'euros par an.
Oui. Hein.
Donc avec ça, on peut faire beaucoup d'autres choses. Je dis pas qu'il faut embaucher que des fonctionnaires, mais pour donner une comparaison quand même, avec ça, un million d'euros par an, on peut embaucher trois fois plus de fonctionnaires de catégorie B hein, pour produire des services publics. Donc là, on a un scandale majeur au sein de la République, hein, qui est que de l'argent est distribué absolument sans contrôle de l'efficacité pour des raisons purement idéologiques.
Alors c'est un point. Alors il y a aussi, alors je ne sais pas dans le temps, oui c'est peut-être précédé, la flexibilisation du travail aussi qui était une méthode utilisée qui était un peu progressivement abandonnée, j'ai l'impression. Je m'avance un peu.
Il ne faudrait pas penser cette chose. Alors là, c'est le troisième pilier hein, de ces politiques structurelles. Là encore, chaperonné par l'OCDE, qui dès 1994, dans ses perspectives de l'emploi, prônait non pas le démantèlement, mais comme on dit de manière plus soft, prônait l'assouplissement des législations protectrices de l'emploi partout dans les pays de l'OCDE. Et l'OCDE a véritablement impulsé des recherches, voire même des cotations de ce qu'elle appelait la rigidité des marchés du travail. Et donc l'ensemble des pays se sont vus attribuer un indice de rigidité hein, qui comportait trois tranches. On cotait la rigidité de la législation sur les licenciements individuels, la rigidité de la législation sur les licenciements collectifs, sur les CDD. Et les différents pays se voyaient attribuer une note, n'est-ce pas, et devaient évidemment essayer d'améliorer leur note, hein, dans le sens de la faire baisser là, pour le coup. Et l'OCDE a impulsé aussi énormément d'études sur cette question. Est-ce qu'il était possible de faire apparaître des corrélations entre votre mauvaise note, c'est-à-dire une loi trop protectrice, et le taux de chômage et l'emploi dans votre pays? Eh bien, au bout de 15 ans, l'OCDE a été obligé d'avouer que non, aucune étude n'a fait ressortir de manière significative une relation entre les législations protectrices de l'emploi, plus ou moins généreuses de leur point de vue, n'est-ce pas, et le taux de chômage constaté. La seule chose qui ressort vraiment de ces études, c'est que, en effet, une loi, disons, des lois protectrices plus généreuses dans un pays que dans un autre, peuvent être de nature à entretenir un dualisme du marché du travail, c'est-à-dire empêcher des transitions fluides, en particulier entre des CDD et des CDI. Oui, ça c'est quelque chose qui ressort. Mais globalement, sur la situation moyenne du marché du travail, il n'y a pas d'impact significatif de tous ces travaux. Et donc, là on voit quand même que dans le giron de l'OCDE et des études qui sortent aujourd'hui, y compris dans les perspectives de l'emploi, on voit qu'il y a une petite fissure dans le consensus et que ils sont en train de revenir sur cette idée qu'il faudrait encore accélérer la LPE. Mais les calculs sont assez incroyables. Hein. Au nom de tout ça, plus de 600 réformes ont été menées en Europe. 600 réformes du marché du travail dans les différents pays européens ont été menées au nom de cet assouplissement de la LPE.
Et oui, sur ce thème-là, est-ce que... Oui, tu disais, on passe pas facilement de CDD intérim à CDI en France. Il y a une rigidité de ce côté-là. Et c'est pas la loi El Khomri qui essayait de faciliter le passage de l'un à l'autre?
Si, elle a essayé de le faire. Bon, pour l'instant, on n'observe pas de changement, non plus de gros changements. Mais sans doute que la raison de cette absence de fluidité, c'est certainement pas le fait que le CDI est un carcan pour les employeurs, c'est que le CDD est beaucoup trop attractif pour les employeurs. Il n'y a quasiment aucune surveillance. Les clauses sont aujourd'hui extrêmement souples. Et donc, privilégier l'emploi en CDD le plus longtemps possible, avec le plus de renouvellement possible, ça reste une option tout à fait attirante. Alors là, on va voir ce que ça va donner, mais le gouvernement a prévu qu'à partir de 2022, pour 7 secteurs d'activité, il y ait des pénalités lorsque on utilise trop, on a trop recours à ce type d'embauche, et qu'en particulier le taux de réembauche sur ce type de contrat est trop élevé, il y aura des pénalités sur les cotisations chômage.
Mais je crois que ça ne concernerait que quelques secteurs de l'économie.
7 secteurs d'activité, en effet, là je ne peux pas vous les citer de mémoire, mais en effet c'est des secteurs minoritaires.
Alors qu'à contrario, la pénalisation va se porter sur les chômeurs, parce que vous avez vu que Pôle emploi là veut renforcer ses contrôles. Et si on en croit là un article de Mediapart laisse entendre que Pôle emploi veut effectuer 500 000 contrôles donc en 2022, après en avoir effectué 420 000 en 2019 et 450 000 en 2020. Donc il y a une volonté quand même du pouvoir de contrôler les chômeurs, ce qui évidemment est tout à fait raccord avec la théorie néoclassique selon laquelle c'est le chômage est lié au comportement du chômeur. Et donc tout ça montre qu'effectivement les politiques n'ont manifestement pas changé leur doctrine par rapport à ça. Le chômeur est toujours celui qui, de par son comportement, explique le chômage.
Oui, alors pour l'instant, alors
d'où le fait qu'il faut contrôler et voir si effectivement.
Tout à fait. Au moins, il faut maintenir le discours, parce que c'est même pas sûr que administrativement ou disons en matière de ressources, ils auront les moyens de l'appliquer. Mais continuer à faire.
Ça crée de l'emploi, parce voilà. qu'ils ont embauché, je crois, 600 agents en plus, je crois l'année dernière. Donc finalement, contrôler les chômeurs, ça crée de l'emploi.
Oui, non, mais ce qui est important dans ce domaine, c'est de maintenir cette idée-là et de produire à nouveau cette réassurance pour l'ensemble de la population. Parce que, bon, le chômage, c'est quand même une perspective qui fait peur à tout le monde, en tous les cas, quand on n'a pas la sécurité de l'emploi. Et accréditer l'idée que finalement, non, ce risque de chômage ne peut pas tomber comme la foudre sur n'importe qui, ça produit une forme de réassurance psychologique. Ça ne peut tomber le chômage que sur les paresseux, ceux qui ne cherchent pas un emploi ou qui ne font pas l'effort nécessaire pour réintégrer le marché du travail. Et donc je pense que c'est un pilier du maintien de l'ordre, en fait, hein, ce type de discours, et que l'essentiel de son efficacité, si j'ose dire, n'est pas économique, elle est politique ou anthropologique, c'est de produire cette réassurance. Alors on va voir ce que ça donne en effet sur les statistiques de radiation. Ça on peut pas le prévoir tout de suite, mais jusqu'ici il faut dire que depuis une dizaine d'années les statistiques de radiation sont à peu près constantes. Bon, à part les très gros épisodes de crise où on le voit baisser très fortement, mais c'est autour de 45 000, les radiations administratives, c'est autour de 45 000 par mois, et c'est un chiffre quasiment constant depuis une dizaine d'années. Et ce qui augmente un petit peu en tendance, ce sont les sorties par défaut d'actualisation des dossiers ou des droits. Là, on est sur une pente légèrement ascendante, mais enfin jusqu'ici c'était pas le sujet principal, enfin, alors ça peut le devenir.
On a découvert aussi un nouveau chômeur, le chômeur optimisateur. Tu peux en dire un mot de celui-là?
Ah ben justement, c'est à celui-là que s'adressent les politiques de workfare, hein, puisque dans la grande théorie économique, en effet, le chômeur n'est pas différent de l'agent economicus rationnel et optimisateur. Et donc, s'il ne travaille pas, c'est qu'il a fait son calcul, il n'a pas intérêt à travailler. Et il a d'autant moins intérêt à travailler que les revenus de remplacement seraient généreux. Et évidemment que le SMIC ne le serait pas. Bon. Alors, évidemment, cette théorie est absolument incroyable. Enfin, elle n'aurait même jamais dû franchir la rue, si j'ose employer cette expression. Parce qu'elle était déjà totalement contrefactuelle au moment où se sont mises en place précisément les politiques de workfare. Alors, peut-être pour essayer de s'en convaincre, il faut sortir au moins un chiffre. Au début des années 2000, avant que se mettent en place les dispositifs primes pour l'emploi, RSA activité, il y avait tout de même 2 600 000 Français qui travaillaient pour un salaire voisin du SMIC, hein, pour un salaire inférieur à 1,1 une fois le SMIC. C'est énorme, en fait, hein. Ça fait plus de 10% de la population active. Or, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient sur le marché du travail en train de bosser? D'après la doctrine du workfare, ils auraient dû faire le choix de l'inactivité ou du chômage. Donc comment ces gens-là s'expliquaient cette chose?
Les chômeurs ne sont pas rationnels.
Alors voilà, peut-être il faut le penser, et peut-être même qu'ils aiment le travail.
Ils sont un peu maso.
Pas exagéré non plus.
Il y a d'ailleurs aussi à ce sujet, je crois que c'était donc à peu près dans cette période, où on a proposé aux RMistes, je crois encore, ou RSistes déjà, de travailler, enfin de reprendre un petit travail à mi-temps tout en conservant le RSA pendant 6 mois. Seulement, en contrepartie, évidemment, ils perdaient toutes les déductions que leur conférait leur situation, comme les transports gratuits, l'APL. Et finalement, ils étaient plutôt perdants, même avec la reprise de ce petit emploi. Et pourtant, beaucoup de gens ont préféré cette solution que de rester au RSA, parce qu'en même temps, le travail leur conférait un statut social. Et ça, donc, cet exemple a démontre lui aussi l'inanité des théories du workfare, en fait.
Parfaitement. Ouais. Voilà. On a bien d'autres bonnes raisons d'aller au travail que simplement la fiche de paye, ça, oui, c'est sûr.
Alors, on va quand même dire un mot sur la réussite, puisque Il semblerait que le chômage ait baissé depuis que M. Macron a la reine du pays en main. Et sensiblement, puisqu'on est passé en 2017 donc de 9,7% du taux de chômage à 7,6% maintenant au dernier trimestre 2021. On peut dire un mot de ça?
Bon, je dirais que peut-être il est un tout petit peu chanceux. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas de la mauvaise foi. C'est que en réalité, l'ensemble de ces politiques qui forment un bouquet, dont on ne peut pas toujours démêler les effets, hein, les trois piliers dont on a parlé des politiques structurelles, on peut dire l'ensemble de ces politiques se sont mises en place sur une trentaine d'années, et disons leur plein régime commence réellement il y a une vingtaine d'années. Donc si on veut prendre la mesure de leur efficacité et de leur effet, bon, il ne faut pas prendre comme point de départ 2017 et puis se demander où on en est en 2019 et ensuite en 2021. Il faut essayer de comparer la situation actuelle, alors soit la situation actuelle, soit la situation avant la crise du Covid, avec ce qu'elle était en 2000. Et alors là, la comparaison est extrêmement simple. Taux de chômage au dernier trimestre de l'année 2000, 8%. Taux de chômage avant l'entrée dans la crise Covid, 8%. Taux de chômage aujourd'hui, 8%, enfin 7,9% au troisième trimestre 2021. Bon. Donc cette constance interroge également quand on voit l'ensemble des efforts qui ont été faits dans la direction du démantèlement des lois protectrices de l'emploi, de la baisse du coût du travail, du workfare. Bon, on ne peut peut-être pas d'un trait de plume dire qu'elles ont été globalement inefficaces. Mais enfin, grosso modo, on reste sur l'épaisseur du trait en matière de lutte contre le chômage.
Il reste 5,8 millions sur les trois catégories A, B, C. Et pour la première catégorie A, ça fait quand même 3,3 millions de gens qui sont demandeurs d'emploi fin de mois, selon l'expression consacrée. René.
Sans parler des gens qui sont sortis des statistiques aussi. Chômeurs, ils sont même plus chômeurs, ils sont non indemnisés et apparemment ils ne figurent plus dans les statistiques.
Il y a un certain nombre. Alors, en France, l'INSEE, bon, c'est pas seulement en France, il y a d'autres instituts statistiques qui essaient de faire des travaux comparables. L'INSEE a défini, créé un nouveau concept qui s'appelle le halo du chômage et essaye de comptabiliser. En effet, les situations qui sont intermédiaires entre l'inactivité, j'allais dire totale et facilement authentifiable statistiquement, et l'emploi. Bon. En assouplissant d'ailleurs la définition de ce que c'est qu'un chômeur. Et ce halo du chômage, en effet, depuis une trentaine d'années, il ne cesse d'augmenter. À tel point qu'aujourd'hui, quand on calcule sur une année et qu'on suit l'ensemble des travailleurs sur une année, eh bien 30% des travailleurs de notre pays aura connu dans l'année un épisode, un moment, ça peut être une semaine, ça peut être deux mois, ça peut être trois mois, 30% auront connu un épisode qui le classe, le fait rentrer dans le halo du chômage. Soit parce qu'il a accepté un temps partiel contraint, c'est pas ce qu'il voulait, ou d'autres raisons comme celle-là. Donc en effet, il s'est installé une forme de précarité ou de zone grise entre l'inactivité et l'emploi qui n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans.
Oui, c'est en particulier les emplois à temps partiel.
Oui. Exactement. Et qui créent ces séquences aussi, CDD, fin de CDD, chômage, avec droit ou sans droit, reprise de CDD, et qui explique aussi le fait que quand on calcule les inégalités, non pas en termes de salaire, mais en termes de revenu salarial annuel, bon, il y a des tas de gens qui ont ces accidents-là, on l'a dit, ça concerne 30% de la population, qui ont ces accidents-là dans l'année. Et alors, quand vous regardez la France, vous dites, bon non, c'est quand même le pays du socialisme, quand on regarde les salaires, entre le premier décile et le neuvième décile, il y a un écart de 1 à 3. Bon. On peut discuter, on peut descendre à 2,5 ou 2 comme dans les pays nordiques, mais ça produit une idée un peu rassurante de ce qu'est notre marché du travail et notre façon de traiter les inégalités. Mais quand vous prenez les revenus salariaux, c'est-à-dire qui intègrent ces coupures de revenus dans l'année, ces périodes d'indemnisation du chômage qui ne sont pas très bonnes, là le ratio passe de 1 à 13, entre des 9 et des 1. Donc il y a une partie de la population qui en effet subit tous les ajustements de ces séquences d'emploi qu'on peut qualifier de très 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 dégradées.
Alors je voudrais passer à la troisième partie, puisque le temps passe. Hein, donc on est d'accord, on parle que du marché du travail, et donc le travail est une marchandise, ce qu'on l'admet d'une part. Et moi je ne savais pas trop comment le formuler, cette question. Je posais la question si en fait individuellement on est d'accord, bon, le travail c'est une marchandise comme une autre, et alors que pour soi c'est sûrement pas une marchandise. Parce qu'on a sa qualification, on a ses relations dans le travail. Enfin, ça n'a rien à voir avec une marchandise, ce n'est pas une carotte quand même, ce n'est pas qu'on vend sur un marché. Donc, mais pourtant, on semble l'accepter pour la collectivité, on semble. Cette expression ne pose plus de questions à personne, en fait. Et peut-être à quelqu'un, ou quelques-uns.
Alors, la réponse ne peut pas être simple à cette question, parce que le capitalisme, comme forme sociale et forme d'organisation de la vie économique, s'évertue depuis l'origine, et c'est presque sa nature, à faire fonctionner le travail comme une marchandise. C'est-à-dire, la propriété des moyens de production étant privée, il existe en effet un marché du travail entre les travailleurs qui sont dépourvus de leurs moyens de production, de leurs outils, qui sont bien obligés de vendre leur force de travail. C'est évidemment toute l'œuvre de Marx qui a aidé à éclaircir cette question, mais les travailleurs sont bien obligés de vendre leur force de travail à un propriétaire d'entreprise ou un chef d'entreprise contre rémunération. Et donc, dans les faits, le travail est marchandisé par le capitalisme. Bon, ça c'est une première chose. Mais on voit tout de suite que cette marchandise n'est pas comme les autres. Parce que cet échange est quasiment contraint pour les travailleurs. Puisqu'ils sont dépossédés de leurs outils de production, c'est pas eux qui possèdent les aéroports, c'est pas eux qui possèdent les bateaux, c'est pas eux qui possèdent les ordinateurs, les chaînes de montage, les parcs automobiles, les réseaux de transport. Pardonnez-moi. Donc c'est un échange contraint et forcément déséquilibré. Parce que le travailleur n'a pas d'alternative à faire valoir dans la négociation en disant, écoutez, si vous ne m'offrez pas de travail, mais c'est pas grave, je vais dans mon transat et puis j'en sortirai pour arroser mes bégonias. Ça ne peut pas être ça le pouvoir de négociation du travailleur. Donc c'est une marchandise, ça on ne peut pas le contester, et le capitalisme structure la société par cet échange, mais une marchandise qui n'est pas comme les autres et pour laquelle l'offreur est en effet dépossédé de son pouvoir de négociation. Ensuite, on peut se poser la question, mais cet échange doit-il rester un échange marchand? Et donc peut-on accepter cette idée-là, que le travail est une marchandise? Alors là, je crois que la bonne critique, la critique la plus au point, c'est celle de Polanyi, de Karl Polanyi, dans son ouvrage de 44, qui explique bien, enfin qui arrive à clarifier cette chose, que suivant laquelle, non, c'est une marchandise fictive. Le capitalisme fait vivre une fiction, c'est une marchandise fictive pour une très très bonne raison. Il y en a d'autres, hein, des marchandises fictives. Il y a la monnaie, disons l'argent, et puis il y a la terre, hein, d'après Polanyi. Mais en ce qui concerne le travail, c'est une marchandise fictive parce que le travail n'est pas produit pour le marché. Lorsque nous faisons des enfants, n'est-ce pas, c'est pas pour faire des travailleurs dans 20 ans. Qui rapporteront de l'argent, à qui d'ailleurs, pas forcément à ceux qui les ont faits, vous voyez bien la relation. Donc l'offre de travail est le résultat finalement de la démographie, si on veut mettre un mot un petit peu opaque autour de ça, et non pas du tout le résultat d'un calcul rationnel d'offreurs de travail qui aurait calculé la volonté d'avoir de la population active disponible pour les employeurs. C'est en cela qu'elle est... Elle est fictive, et donc oui, le capitalisme essaye de faire vivre cette fiction de la marchandise. Donc c'est pas étonnant tout de même que nous l'ayons dans nos représentations, cette idée-là. Simplement ce que nous perdons peut-être un petit peu de vue, en général, c'est que pendant au moins 50 ans, 40-50 ans, la construction de l'État social a consisté à la démarchandiser, cette marchandise. En effet, à donner des droits protecteurs aux salariés, à bâtir une sécurité sociale, à construire un système des retraites, à prévoir des allocations chômage en cas d'accident sur le marché du travail. Et donc, toutes ces lois ont permis de nous éloigner autant que nécessaire pour assurer une sécurité sociale et économique des travailleurs de l'idéal de la marchandise tel que voudraient le faire vivre, disons, les doctrinaires, soit libéraux, soit de la propriété privée. Donc nous avons raison de dire que le travail n'est pas une marchandise ou ne doit pas l'être, et qu'il y a un monde possible en dehors de cette marchandisation à outrance. Et ce monde possible, l'État social l'a construit. Et l'État social n'a pas totalement disparu. Mais même, il est toujours bien en place, comme nous l'a précisé Christophe Rameau. Simplement, il a été choqué, et choqué par le néolibéralisme. Le néolibéralisme a réussi à réintroduire de l'insécurité partout, et en particulier sur le marché du travail, alors que ces lois protectrices sont encore en place, en fait. Et c'est ça le gros paradoxe de cette époque.
Bien, je crois qu'on va terminer là-dessus. Si, on va peut-être dire un mot, René, peut-être.
Oui, on nous parle toujours du coût du travail trop élevé, mais le capital, il a aussi un coût, lui.
Alors, en effet, bon, là, Christian, il faudra peut-être faire une émission sur le coût du capital. On en avait fait une, je ne sais plus.
On en a fait une, effectivement.
À quel moment?
2014.
Mais en effet, c'est bien l'un des problèmes de la période actuelle du capitalisme, c'est cette financiarisation des entreprises et du capitalisme en général, qui fait que les actionnaires, aujourd'hui les grands investisseurs institutionnels, sont capables de réclamer aux entreprises des rendements exorbitants comme condition de l'investissement et de l'accumulation du capital. Et en effet, réclamant ces rendements qui sont de l'ordre de 8, 10, 15% par an, hein, je vous rappelle que le taux du livret A, c'est 0,50. Bon, c'est pas le même pour le petit épargnant et le gros épargnant. Ces rendements exorbitants, évidemment, éliminent tout un monde possible. C'est-à-dire le monde des investissements qui rapporterait entre 10% et 0%. Et qui serait pourtant rentable, n'est-ce pas? Et tout un monde possible en termes de réalisation sociale et de réalisation écologique. Donc oui, ça vaudrait le coup de reparler du coût du capital, lequel ne faiblit pas hein, aujourd'hui. Une nouvelle étude vient de paraître là sur le fait que l'année 2022 sera un nouveau record mondial de versement des dividendes aux actionnaires, dépassant plus de 2000 milliards de dollars annuellement. Donc oui, ça reste un sujet, comme on dit.
D'études que tu avais sorties avec quelques autres économistes intéressés ou pas, c'était le surcoût du capital aussi.
Le surcoût du capital, oui, c'était une étude.
On peut très bien rémunérer les actionnaires, mais là, on est au-delà de, on est au-delà du raisonnable, si je peux dire.
C'était un peu ça l'idée. Oui. C'était un peu ça. Merci. C'était une étude du Clercé, oui.
Merci Laurent. Oui, c'est une étude du Clercé, rappelons-le. Merci Laurent pour cet éclairage sur le marché du travail, sur les théories du chômeur et tout ce qui est, concerne effectivement la baisse du coût du travail. On n'a pas parlé de la substitution du capital au travail par contre.
Eh ben, ce sera pour une autre fois. Merci de votre invitation.
Merci beaucoup.
Merci.
On va passer à une pause musicale. On va être dans l'esprit un peu d'une ministre, tu l'as trouvée quand même. Allez, on le vas-y.
Connaissez la Versaillaise, à serre-tête qui pousse un long dos.
La plus en vue dans le diocèse, un spécimen balèze de grande bourgeoise catho.
Celle-ci dans le genre est plus à l'aise, on l'appelle Muriel Pénicaud.
Avouez qu'elle n'est pas mauvaise pour ramasser du pêche, d'Anone et d'Asson.
Elle bouffe à tout, les râteliers, la Pénicaud. Encore des sous,
encore une part du gâteau.
Elle pantoufle sans charentaise, elle est la reine des réseaux.
À croire qu'il n'y ait que ça qui lui plaise, elle ramène encore sa fraise, lave la ministre du boulot.
Pénicaud, les grands patrons te chantaient.
À chacun tes discours, ceux qui ont encore un cœur t'aiment d'amour.
Pénicaud, taille du CAC 40.
Tu irradies leurs joues et remplis de douceur leurs petits fous.
Elle a aimé en 2016
chica, 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 chica.
La loi travail des socialos
qui a fait tomber de leur chaise Seigneur Philippe Martinez et ses amigos.
Mais cette fois français et française
chica, 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 chica.
Bienvenue dans le monde nouveau.
Les patrons ne vous en déplaisent, vous licencieront à l'aise puisque ça crée du boulot.
Ils deviennent fous.
Qatas les a rendus marteaux.
Ils oublient tout,
mais surtout les acquis sociaux.
On peut croire en toute hypothèse.
Chica, 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 chica.
Pas besoin d'être prof d'éco.
Ce charabia, c'est des foutaises. Les travailleurs l'auront mauvaise pénico, c'est pas un cadeau.
Pénico. Comme tu es convaincante,
la France est à la bourre. Heureusement, le sauveur est de retour.
Pénico, pénico. Si un jour tu te plantes,
ton patronat d'amour viendra voler dans le à ton secours.
D'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h, sur Radio Campus.
Oui, c'était les goguettes à 3 plus 1, la chanson ça s'appelle Pénico, curieusement. Voilà, on va attaquer les activités d'attaque, dès que je les trouve. Voilà. Et René, tu démarres alors.
D'accord. Alors, les activités d'attaque au plan national. Un hommage à Desmond Tutu, décédé le 26 décembre dernier. Desmond Tutu, archevêque du Cap en République sud-africaine, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid et pour les droits des populations opprimées, était également à l'origine de plusieurs initiatives internationales visant à apporter des solutions aux problèmes planétaires. Concernant le changement climatique, en perspective de la COP21, il avait accepté en 2015 de préfacer l'ouvrage collectif « Crime climatique stop » qui s'accompagnait d'un appel signé par des personnalités du monde entier. Desmond Tutu nous invitait à garder espoir et à nous tourner résolument vers l'avenir au travers de mobilisations climatiques de masse, seules à même de changer la donne. Qui peut donc arrêter le changement climatique avant qu'il ne soit trop tard ? Ben, c'est nous, écrivait-il. Pour lui rendre hommage, ATTAC vient de republier cette préface sur son site que vous pouvez consulter.
Oui, c'est sur le site d'ATTAC, en effet. Le mercredi 12 janvier, il y a une déclaration du conseil d'administration d'ATTAC dont le titre est « Face au néolibéralisme autoritaire et au néofascisme ». Ils vont fort hein, quand même à ATTAC. ATTAC se mobilise, je sais d'accord d'ailleurs. En résumé, entre un néolibéralisme qui joue de plus en plus sur des ressorts autoritaires et racistes pour imposer ses politiques en faveur des plus riches, la gestion de la crise sanitaire en est la dernière illustration et la montée en puissance des divers courants d'extrême droite, en France et dans le monde, dont la gestion économique et sociale n'est qu'un copier-coller des réformes néolibérales, ATTAC continuera à se mobiliser pour jouer un rôle utile dans la campagne électorale, avec déjà l'apparition le 19 janvier de l'ouvrage « Macron, on fait le bilan » sur le quinquennat du président des ultra-riches, comme le disait l'ancien président. Les notes réalisées par l'Observatoire de justice fiscale, dont je recommande toujours d'aller visiter. Macron, dépôt de bilan fiscal. La justice fiscale version Version Rassemblement National, tout un programme. Ces notes sont disponibles sur le site, à consulter et à télécharger encore une fois. Avant et après la campagne électorale, Attac poursuivra la lutte pour une révolution écologique et sociale aux côtés de Plus Jamais Ça, des organisations syndicales, des mouvements féministes antiracistes. Je rappelle que Attac, avec 16 autres associations et syndicats, a produit cet été une proposition de plan de rupture. René.
Oui. Et enfin, une vidéo sur YouTube, le jeudi 13 janvier, « Payons-nous trop d'impôts ?» C'est une interview de Raphaël Prado, porte-parole d'Attac, par Salomé Saquet de Blast. Cet entretien se base notamment sur le livre d'Attac, « Impôts, idées fausses et vraies injustices », paru en mai 2021.
Oui, auquel Raphaël a participé d'ailleurs, avec Vincent Drozet, que nous avons reçu ici.
Oui. Donc la vidéo est disponible sur le site d'Attac.
Et je vous conseille d'ailleurs de temps en temps d'aller voir les vidéos de Blast qui sont pas mal du tout. Alors au plan local, l'extension de l'aéroport Lille-Léquin, lancement de l'enquête publique. Eh bien c'est depuis le 10 janvier, depuis le début de la semaine. En fait, l'enquête publique se terminera le 14 février, c'est-à-dire le temps qu'on a pour rédiger quelque chose. Comme nous sommes membres de NADA, donc Non à l'aéroport, l'association Non à l'aéroport, l'association opposée à l'extension de l'aéroport, les comités Attac de la métropole vont participer à cette enquête et élaborer une série d'observations et remarques sur les impacts environnementaux et de cette extension.
Le collectif Plus Jamais Ça, un projet a été retenu pour le mois de mars, une manifestation sous la forme d'un marché à but d'information et d'éducation sur l'alimentation, ou plutôt sur l'impact de nos choix alimentaires et leurs conséquences à la fois sur la santé et l'environnement. Cet événement devrait se tenir à Roubaix, en partenariat avec d'autres organisations, comme l'Union populaire et citoyenne de Roubaix, l'Université populaire et citoyenne de Roubaix, la Confédération paysanne, des AMAP, des jardins partagés, entre autres. La prochaine réunion du collectif est programmée pour le lundi 17 janvier à la Maison des associations de Lille.
Oui, c'est pas sûr que ça marche si bien que ça, notre projet, René. Attac oui. Métropole, débat formation sur la fiscalité, programmé par les trois comités locaux d'Attac, prévu pour le 5 février, vraisemblablement au Polder ALM, nous verrons. Cet événement en lien avec l'Observatoire de la justice fiscale et l'ouvrage d'Attac, Impôts, idées fausses et vraies injustices, dont René vient de parler, offrira une analyse plus détaillée des différentes questions liées à la fiscalité. Avec pour intervenant Vincent Drozet, donc économiste fiscaliste que nous connaissons ici déjà, et puis ancien secrétaire solidaire de Solidaire Finances Publiques et membre d'Attac du CA. L'événement sera ouvert à tous avec toute une demande d'inscription, avec toutefois une demande d'inscription préalable. Alors, un mot quand même des deux livres dont on a parlé rapidement. Hein, Le Nouveau Monde, que je vous conseille vraiment, c'est un gros livre, 1044 pages, 35 intervenants, dont bien sûr notre activité du jour, mais aussi Lordon, Ruffin, Jean-Marc Porquet, Sandra Luc Bray et plein d'autres qui ont participé à ce bouquin. Qui est organisé en 8 parties et 90 contributions, donc encore une fois de 35 auteurs. Je vous conseille particulièrement les mythologies dont Laurent vient de faire un rappel sur le coût du travail en l'occurrence. Mais aussi, je vous conseille aussi la lecture de La Marche Blanche, qui est un véritable bijou comme mythologie de notre société. L'autre livre, c'est le bouquin de mise à jour et augmenté de Laurent Cordonnier.
Pas de pitié pour les gueux.
Merci René. Pas de pitié pour la gueux. Alors, si vous l'avez lu, c'est un bouquin qui est tout à fait remarquable parce que c'est bien pour ça qu'on a parlé 20 ans tout à l'heure, parce que le corps du bouquin ne change absolument pas. Laurent a ajouté une longue introduction et une longue postface, conclusion, qui est vraiment très éclairante sur ce qui se passe aujourd'hui et dont on est largement utilisé pour l'émission.
Et c'est très bien écrit. Avec un style très sarcastique.
Oui, le style sarcastique est très réputé agréable. De Lordon. On arrête là. Oh,
attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus.